Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Professeur Jacques-Louis Binet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine et vous avez animé le 16 septembre 2006 la journée du livre de l'Académie nationale de médecine, donc quatrième journée, quatrième année, dont le thème portait sur les biographies médicales. Alors, à l'occasion de cette journée, le prix Jean Bernard a été décerné à Marie Didier pour son livre « La nuit de Bicêtre » publié en 2006 aux éditions Gallimard. Vous allez pouvoir donc dans cette office des pages nous donner plus de détails sur ce livre, nous en faire le résumé, nous en faire la critique. Mais avant, peut-être que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce fameux prix Jean Bernard dont vous êtes à l'origine, je crois.
Oui, il n'est pas encore fameux ce prix. Il faudrait qu'il le devienne, mais malgré mes efforts, il ne l'est pas encore. Il y a 4 ans donc, Jean Bernard était vivant et encore très actif. Manifestement, il s'ennuyait un peu. Il s'ennuyait parce qu'après toute la vie active qu'il avait eue, il avait moins de propositions. Donc j'ai été le voir un jour pour lui dire « Est-ce qu'on pourrait pas faire un prix qui porterait votre nom ?» Il m'a dit comme d'habitude « Mais je sais ce que ça voulait dire, à quoi bon ?»« À quoi bon ?» Ça voulait dire « Refaites-le. » Bon. Mais, et quel est mon rôle ? J'ai dit rien. Simplement, vous présiderez le jury, et puis...
Le prix portera votre nom. Et il
a ajouté « Fixons-nous le moins de règles possible. » Parce qu'on va trouver un très très bon roman qui va me plaire beaucoup et auquel je voudrais donner le prix. Et puis, si on a fixé une règle, on verra qui sera écrit par quelqu'un qui ne rentre pas dans les normes qu'on a définies.
Alors, un minimum de règles, mais quand même quelques...
Là, je lui ai proposé, comme c'était un homme qui avait deux activités, que soit le livre serait écrit par un médecin, qui pourrait parler de n'importe quoi, soit on parlerait d'un médecin ou d'une maladie. Il fallait qu'il y ait une part médicale, entre guillemets, et d'autre part, une part que j'avais défini, ce qui ne veut pas dire grand-chose, romanesque. C'est-à-dire que ce soit une œuvre littéraire, que ce soit pendant pas une œuvre scientifique. Voilà les deux règles qui, vous le voyez, étaient extraordinairement larges. Alors, la première année, nous sommes tombés, si je peux dire, par hasard et très vite, sur la pièce d'abord, parce que je ne l'avais pas lue, d'Éric Emmanuel Schmitt, qui était La Dame en Rose, jouée par Daniel Darieux, monologue d'1h40, et qui était écrit pour Jean Bernard, puisque l'enfant était atteint d'une leucémie.
Bon, donc, oui,
c'était admirable. Admirable. En plus, un tour de force théâtrale, elle était seule sur la scène, elle n'a pas fait une reprise, elle n'a pas fait une faute de français. Bon.
Donc Éric Emmanuel Schmitt a reçu le prix Jean Bernard pour la première année.
Il l'a reçu pratiquement à l'unanimité. Bon. Deuxième année, c'était plus compliqué. Alors, d'abord, on faisait ça très en amateur. Moi, j'ai pas le temps de beaucoup lire. J'ai lu dans ma jeunesse tout court. Puis maintenant, j'ai vraiment plus le temps et je suis tellement pris par la littérature médicale que je peux pas m'en occuper. Alors, peu à peu, se sont associés à nous. D'abord, la fille de Jean Bernard, qui s'appelle Antoinette Bernard, qui a beaucoup lu dans sa vie. Bon, parce que Monsieur Jean Bernard était là, mais dans la règle, autre règle, il faudrait que dans le jury, il y ait des membres de l'Académie française, des membres de l'Académie de médecine, et puis des représentants de l'écriture médicale. Bon. Alors, est venu avec nous et nous a beaucoup aidé le directeur de la librairie de Schwann, qui s'appelle Yannick Poirier, et qui a l'air d'avoir 12 ans, qui lit tout le temps, et qui est aussi passionné de médecine, et qui a un vrai contact avec des lecteurs, parce que la librairie de Chagnes, il y a toujours des gens qui sont là pour lire et voler des livres. Ouais, ça tourne, ça reste là. Et il était très passionné, et il nous sert un peu de poisson pilote pour chercher. Alors, il a beaucoup cherché la deuxième année.
C'est lui qui vous dégote, en fait, les livres
oui,
qui seraient susceptibles de recevoir le prix.
Oui, et puis on rajoute... Troisième... Alors, nous avons donné le prix à Martin Vinclair, qui est un médecin, un journaliste, qui a eu quelques difficultés, parce que c'est avec les radios, je crois, parce que c'est quelqu'un d'assez violent. Et alors, malheureusement, c'est un dénigrement total de d'une des facultés de médecine de France, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'elle a été assez dénigrée. Et on m'en a beaucoup voulu. J'ai pas voté pour lui, mais peu importe. Moi, je suis là pour...
Le prix a été décerné, en tout cas, cette
personne. Et Jean-Bernard n'a pas voté. Bon, le prix a été décerné, et on en a beaucoup voulu, parce que c'est vrai, en particulier, un ancien doyen de la ville, qui est un seigneur, a dit, c'est pas possible que vous ayez fait ça contre moi. Ce qui était complètement faux, parce que puis voilà, un vote est un vote. Troisième année, le prix a été donné, alors un premier roman, qui s'appelle, l'auteur s'appelle Jean-Baptiste Gendarme, qui raconte la vie d'un malade sous oxygène, sous une tente à oxygène, et qu'attend une femme qui viendra jamais. Alors, c'est un beau livre. D'abord très médical, parce qu'il raconte qu'est-ce que c'est que la douleur, il a ce qu'on appelle un pneumothorax, l'asphyxie, la douleur thoracique, tout ça c'est très bien dit. Et puis ce qui fait la vie de l'hôpital, c'est l'attente. Les malades, ils attendent toute la journée, on sait pas très bien quoi. C'est le temps de l'hôpital n'a aucun rapport avec celui des gens bien portants. Et dans cette attente n'est animée que par l'avenue de sa copine qui viendra pas. Mm-hmm. Vous voyez, c'est un beau livre.
Donc, roman, essai.
Totalement roman, écrit par quelqu'un qui ne sait rien de la médecine.
Donc, trois livres bien différents.
Voilà.
Et ce quatrième, donc, Marie-Didier...
Alors, ce quatrième... D'abord, je voudrais vous citer, quand même, si ça ne vous ennuie pas...
Les membres du jury.
Les membres du jury. Il y a donc deux représentants de l'Académie française, qui sont Yves Pouliquen et Bertrand Poirot-Delpech, qui, cette année, n'a pas pu venir, parce que je n'ai pas eu des problèmes, mais qui nous en avait parlé un peu. Il y a beaucoup de représentants de la... Alors, la famille Jean-Bernard, maintenant, c'est Antoinette Bernard... beaucoup de représentants de l'Académie de médecine, c'est-à-dire des présidents, Denis Pellerin, André Vacheron, la bibliothécaire de l'Académie de médecine, qui est très liée par définition au livre, Yann Poirier, je vous l'ai dit, Geneviève Barrier, qui est la femme de François Jacob, et qui dirigeait elle-même un prix littéraire pour une foire médicale, je ne sais plus laquelle, et qui lit beaucoup. En plus, François Jacob lit beaucoup, et alors à tous les deux, il m'apporte ce que je ne savais pas. Et puis, s'y ajoute aussi, cette année, un ancien doyen, recteur de Marseille, qui est René Mornec, c'est moi.
Voilà. Et voilà, et vous hein.
Alors, on voulait être 13, vous savez que pour Jean-Bernard, il faut toujours être 13.
Ça fait partie des chiffres que je ne connaissais pas.
Le comité des 13, le truc dans sa vie, les réunions à 13 ont joué un
rôle. Beaucoup de personnes évitent le 13, lui en revanche,
non, il est pas du tout superstitieux. Dans la vie, dans sa vie, ça revient. Alors, je voulais qu'on soit 13, mais on n'a jamais été 13. Et aujourd'hui, avant-hier, nous devions être 12 et nous étions 11. Enfin, voilà, peu importe pour les. Alors, je voudrais aussi vous citer les livres qui ont été choisis. Parce que c'est pas parce qu'on a eu le prix qu'on est le meilleur. Bon. Quand même. Bon,
alors à toute vitesse. Voilà les autres textes.
Bon, à toute vitesse. Les draps blancs, Dominique Delfieux, qui est l'histoire de quelqu'un qui accompagne les malades autour de la mort. Le livre de Blanche et Marie, c'est l'histoire d'une femme qui a été, qui aurait été, parce que je crois que l'histoire est totalement inventée. Une des patientes de Charcot, vous savez, qui l'exorcisait. Bon. Et qui est sortie de Charcot pour devenir l'assistante de Marie Curie. Et qui est morte sur un petit chariot des conséquences de l'irradiation. Je trouve que c'est un très beau livre. C'est écrit par un Suédois. Un Français n'aurait pas pu l'écrire. Bon.
Pourquoi?
Un très bon livre. Parce qu'il y a une espèce de lumière un peu dure qui éclaire ces deux femmes. Alors ils ont connu, elle, je crois qu'elle, il l'a inventée. Mais Marie Curie a connu le pire des assauts. Vous savez que, son mari est mort. Elle est venue la maîtresse d'un grand physicien qui était un grand large, et toute la France voulait, elle était prix Nobel.
Oui, oui.
Toute la France voulait l'exiler. Non, mais vous vous rendez compte. Alors, elle a eu quand même un autre prix Nobel. Mais enfin, vous voyez, ça a été, elle était polonaise, bon, tout ça, tout le racisme
jouait. Oui, tout le contexte historique.
Très bon livre aussi, d'Edith de la Héronnière. Un grand livre d'écriture de Pierre Guyotat, qui s'appelle Coma, qui est vraiment un grand exercice littéraire. Un très bon livre d'Emmanuel Venet, qui est un médecin de Lyon, qui nous avait déjà écrit, qui avait été candidat il y a 2 ans ou il y a l'année dernière, pour un livre de pratique médicale qui était passé sur le signe de l'humour et du sourire. Là, c'était plus compliqué. Il défend le médecin, le psychiatre d'Antonin Artaud. Alors, quand on voit, comme tout le monde littéraire a hurlé sur l'internement d'Antonin Artaud à Rodez, la vie qu'il a vécue, d'oser défendre la personne qui en avait la charge, c'était présomptueux et le livre est assez bon parce que alors s'il y a un côté un peu corporatif pour défendre les psychiatres, mais au fond est-ce qu'un autre psychiatre aurait été plus mauvais qu'Antonin que Ferdière, le psychiatre d'Antonin Artaud? Je crois pas parce que Ferdière lui a permis de d'écrire. Et puis un dernier livre d'un médecin encore qui s'appelle Paul Zetoun, un titre qui est pas très aguichant, La tête, le ventre et le médecin, mais qui est un livre très intéressant parce que joue un grand rôle l'Internet. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un dialogue entre un médecin et sa malade, et la malade lui écrit après ce qu'elle ne lui a pas dit. Et on s'aperçoit que le non-dit qui apparaît sur l'écran de l'Internet est beaucoup plus fort que ce qu'elle lui a dit.
Un médecin psychiatre, un médecin généraliste,
un gastro-entérologue. Elle a un petit trouble colique, il faudrait lui faire une coloscopie, puis il n'ose pas trop lui dire. Enfin, l'argument médical est assez faible, mais le dialogue entre les deux, et tout ce que peut apporter, ce qui nous semble aussi peu littéraire que possible, qu'est l'Internet, mais la malade, revenue chez elle, raconte une histoire qui est assez différente que celle qu'elle a eue face à face à son médecin. C'est un beau livre. C'est un beau livre, tout petit, enfin qui n'a pas beaucoup de pages, mais c'est un bon livre. Donc, si vous voulez, un assez bon choix. Alors, pourquoi Marie Didier ?
Alors voilà, Marie Didier, dans La Nuit de Bicêtre, qui a donc été publié en juillet 2006, je crois, en tout cas, qui est sorti dans les librairies en juillet 2006.
Chez Gallimard.
Et alors, qui traite d'un sujet bien particulier. Alors, Marie Didier est médecin à Toulouse, médecin gynécologue.
Je ne savais pas du tout qu'elle était médecin.
Parce alors voilà, c'est bien, écrit... on apprend tous les jours sur
Canal Académie. Mais tant mieux, parce que ça n'a pas joué dans nos jugements. Bon, tant mieux, si vous voulez. Elle écrit très bien, et son livre n'a aucun rapport avec la gynécologie, puisque Bicêtre, vous le savez, était un hôpital général créé par Louis XIV pour enfermer les vagabonds de Paris.
C'était un hôpital-prison.
Oui, comme les hôpitaux généraux. Vous savez que Louis XIV, on a eu assez des vagabonds. Paris était rempli de vagabonds. Homme ou femme, qu'est-ce que c'était qu'un vagabond ? C'était soit quelqu'un de pauvre qui dormait dans la rue, soit un fou, soit un voleur. Voilà, on était malade, prisonnier ou pauvre. Tout ça encombrait la grande ville, donc on les foutait en tôle.
Alors au 18e, cet hôpital contenait à peu près 3000 patients, ce qui est énorme. Ça représente
des hommes, uniquement des hommes. Il y avait 2 hôpitaux à Paris, Bicêtre pour les hommes, La Salpêtrière pour les femmes. Et c'était une prison. Ça portait pas d'autres noms.
Alors, 3000 patients, c'est l'équivalent d'une petite ville. Enfin, c'est un grand village,
mais,
ou une petite
mais,
ville.
Mais retourner à Bicêtre ou aller à La Salpêtrière, Jean Dolay avait appelé La Salpêtrière la cité grise. Ce sont des cités. Ce sont des quartiers. Cité, c'est pas très bon. Ce sont des quartiers. C'est immense. C'est immense, d'autant que le style architectural est un style pavillonnaire. Tant qu'ils sont tous dans leur pavillon. Totalement dominé par une règle militaire, non religieuse. Ça, c'est intéressant, Louis XIV se dégageait là, un peu des problèmes, et absolument pas médical. Ça s'appelait hôpital général, mais les médecins n'avaient rien à faire. Alors, la grande révolution a été faite par Pinel. C'est très difficile de savoir ce qu'il a fait exactement, parce que je crois que son rôle a été un peu trop souligné par son fils. Mais enfin, c'est l'histoire du livre.
Alors oui, voilà, justement, en fait, en travaillant sur Pinel, cet auteur, Marie Didier...
Je sais pas comment il y est arrivé.
Va finalement s'intéresser, va découvrir un autre personnage qui va permettre à Pinel de travailler sur la psychiatrie moderne. Et ce personnage s'appelle Jean-Baptiste Pucin. Au départ, il est patient là-bas et il finira par soigner ses propres personnes.
Alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il passe d'une catégorie à l'autre.
Oui.
Quand on dit patient, on est gentil. Il était prisonnier, il était pauvre, il n'avait pas commis de larcin. Il n'était pas fou.
Il était atteint d'écrouelles.
Oui, si, c'est une maladie très connue. C'est la tuberculose ganglionnaire. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a un ganglion qui suppure. Petite maladie de rien du tout. Enfin, pas du tout de rien du tout, parce que ça va suppurer toute la vie, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de traitement.
Et c'est ce qui lui a valu donc d'entrer dans cet hôpital.
Alors, oui, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on ne soignait pas. Il y avait à peine des médecins. Et à mon avis, il est entré parce qu'il était pauvre, qu'on ne savait pas quoi en faire. Il traînait dans la ville. Mmh. Alors, il avait une grande faculté de s'adapter. Et au lieu de se révolter, il s'est révolté, hein. La vie était intolérable. Intolérable. Les prisonniers entre eux, la nourriture qui était ignoble, on se volait des couvertures, on se battait, il y avait des gardes-chiourmes. Eh bien, lui, au lieu de jouer la révolte, a joué la discipline, est devenu peu à peu gardien.
Il a gravi les échelons.
Voilà, il a gravi les échelons d'un monde de l'horreur. Bon.
Puisque quand on y entrait, on n'y ressortait pas.
Ah, jamais. Oh, alors attendez, non, dans l'autre lit, qui est celui de Blanche et Marie, Blanche, elle sort. À mon avis, on ne sortait jamais. Mm-hmm. Alors lui, il a gravi les échelons, il a repéré les bons prisonniers, les mauvais prisonniers, et c'est lui qui a permis, qui a donné l'idée, qui a réalisé manuellement le geste de Pinel, totalement symbolique pour la psychiatrie, c'est que parmi ces patients, il y avait des fous, et que les fous ne devaient pas porter les fers. Le fou était libéré. C'était au fond...
Reconnaître une humanité à ces personnes.
C'était au fond créer la psychiatrie en tant que discipline. Mmh. C'est pas parce que... Et donner des droits à cette catégorie de patients qui, le plus souvent, étaient là parce qu'ils avaient commis un larcin ou n'importe quoi, ou une faute. Il fallait être reconnu anormal dans la rue, donc avoir dérangé l'ordre public pour rentrer là. Alors quel est son rôle par rapport à Pinel? C'est difficile. Le fils de Pinel a fait de son père un dieu, mm-hmm. qui n'était peut-être pas, et en fait, sûrement la main. Peut-être que la pensée était un peu pinélienne, mais la main, c'était lui.
Alors, ce fameux Jean-Baptiste Pucin a été également l'inventeur de la camisole de force. On aurait pu penser que c'était justement Pinel qui l'avait...
Mais oui, parce que ça nous paraît horrible. Ça nous paraît horrible, la camisole de force.
Hein, oui, effectivement.
Dans un truc.
Maintenant,
mais
c'est la camisole
chimique. Le problème,
c'est
qu'à partir du moment où le fou, qui était, parce que le fou, c'est un mauvais terme, l'agité, qu'on ne pouvait maintenir que par des liens, on lui enlève ses liens, mais il va tout casser. Mm-hmm. Alors, il faut trouver un autre moyen, soi-disant moins traumatisant, c'est pas absolument sûr, qu'est la camisole de force. Et ça, paradoxalement, alors que ça nous semble aujourd'hui un instrument de torture, maintenant on va donner 3 comprimés, il va
replier. Voilà, c'est transformé en camisole chimique,
mais en fait, je
avec les retardateurs.
Peut-être pas tellement mieux souvent. Mais, en réalité, la camisole de force faisait partie de... C'était un traitement. Et c'est horrible à dire. Ça permettait d'isoler, de contenir... sans trop traumatiser. Voilà. Enfin, c'est un mot très fort, camisole de force.
Camisole, oui, effectivement.
Donc, il participe premièrement à la libre... On enlève les liens, et puis il tombe sur des problèmes insolubles. Comment enlever les... Qu'est-ce qu'il faut faire quand il continue à s'agiter? On invente la camisole de force.
Alors, un détail assez important de cet ouvrage, donc, dans la nuit de Bicêtre de Marie Didier, c'est que l'auteur en question tutoie son personnage.
Pour vous dire la vérité, ça m'a un peu agacé.
Jean-Baptiste Pucin, oui. C'est le principe même de la collection Gallimard, oui. Dans cette collection-là. Mais effectivement,
mais
ça me paraît particulier.
Frère. Elle en fait son confident, elle en fait son ami. Bon, ce qui lui donne peut-être un côté plus contemporain. Ensuite, ils vont aller à la Salpêtrière. Le jeu continue dans un autre hôpital, parce que Pinel va libérer, et très souvent, on écrit beaucoup plus Pinel libérant les folles de la Salpêtrière plutôt que les fous de Bicêtre. Mais ça, c'est le même monde. C'est exactement le même problème. Alors, ce côté, ça donne un côté un peu incantatoire. Et à la fin du livre, je crois qu'elle part pour Toulouse, mais qu'elle veut passer à la Salpêtrière. Et la Salpêtrière est plus belle et a gardé plus de vestiges, bien que ce soit un hôpital moderne maintenant, mais a gardé une sorte de quartier qui sont aussi impressionnants, peut-être plus impressionnants encore à mon avis, que ceux de Bicêtre. Et là, je trouve qu'à la fin, elle redonne un peu dans l'incantation, mais c'est son style. Et les membres du jury n'ont pas du tout pris ça, contrairement à ce que je vous dis pour l'incantation, ils ont pris ça pour un témoignage de la compassion. Et ceux qui ont beaucoup défendu le livre ont insisté sur le fait que M. Jean-Bernard était très attaché à la compassion et que là, c'était une manière assez remarquable de l'avoir exprimé.
Et alors, sur les extraits qu'on peut lire, on voit qu'elle ne fait pas dans les, elle ne fait pas dans la dentelle.
Ah non, mais c'est un monde horrible.
Alors, si je peux lire quelques lignes pour donner juste une idée. Les odeurs d'urine, de merde, de pu, de vomi, de sang pourri se mêlent en une puanteur atroce qui te prend en écharpe. Et il faut avancer sous le plafond bas d'une salle bondée aux fenêtres clouées à la lumière de cendres. C'est presque la nuit. Des immondices en couches épaisses cachent le sol. On gémit sur des grabats putrides quand on a la chance d'avoir un grabat. Sinon, on tente, à même le carreau, de se protéger de l'humidité avec une couverture trempée d'ordures, décharnée, rongée. On attend les grands remèdes. L'attente peut durer plusieurs mois. C'est comme si elle vivait à cette époque-là.
Ah oui, non, mais ça, c'est admirablement écrit. Et c'est la description d'un enfer qu'elle appelle la nuit de Bicêtre. Ça, c'est très beau, c'est tout à fait juste.
Donc, c'est un ouvrage qui vous ravit quand même, même
ah bon,
si
moi, ça
ce
me ravit
forcément...
tout à fait. Je trouve que c'est un très bon
ouvrage. Sur quoi vous auriez jeté votre dévolu pour ce prix?
Pour vous dire la vérité, j'ai pas voté pour elle, mais ça n'a aucune importance.
Oui.
Et puis, je suis responsable du prix, donc je pense qu'elle était la meilleure. Parce que parmi le jury, mais c'est un très bon livre.
En tout cas, la critique du Monde a été très positive.
Toutes les critiques sont positives, voilà. Mais c'est un très bon livre et qui nous rappelle un peu qu'est-ce que c'était que la condition de ces hôpitaux généraux avant la Révolution française.
Avant la Révolution française.
C'était l'atmosphère des camps de déportation. C'était le même monde. C'était le même monde. Non, mais alors le roi, c'était le roi de France. Mais ceux que ne voulait pas le roi de France, ils avaient un traitement qui était particulièrement dur. Et la description que vous donnez avec ce mélange d'odeur, de froid, d'humidité et de maladie, car bon nombre étaient malades, eh bien, c'est quand même l'horreur de la... C'est ce que ne peut plus être la condition humaine.
Eh bien, merci, professeur Jacques Lubinet, de nous avoir expliqué un peu plus en détail.
Je vous ai pas beaucoup expliqué, mais faites lire le livre.
Alors voilà, je rappelle le titre du livre « Dans la nuit de Bicêtre », écrit par Marie Didier et publié en 2006 aux éditions Gallimard et qui a donc reçu le prix Jean-Bernard 2006, le prix Jean-Bernard de l'Académie nationale de médecine. À très bientôt, professeur Jacques Lubinet, pour une autre émission.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci.